Un nouvel exercice spatial et militaire vient de s'achever dans notre région.
Pour la quatrième année, le commandement de l'air et de l'espace a organisé l'exercice Aster X, une occasion d'entraîner les effectifs interarmés, tout en y associant des partenaires internationaux et des industriels. Le commandant Benoît, organisateur de cet exercice, est présent dans nos studios et il va nous en dresser un premier bilan. Bonjour commandant.
Bonjour Isabelle.
Cette édition 2024 d'Aster X, unique en Europe, s'est déroulée du 4 au 15 mars sur le site du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Rappelez-nous, commandant, l'objectif d'une telle opération.
Eh bien, l'objectif principal, c'est évidemment d'entraîner tous les militaires du commandement de l'espace à se préparer pour les opérations spatiales militaires.
Donc c'est un entraînement et entre dans cet entraînement des scénarii pour essayer d'imaginer ce qui peut se passer en fait dans l'espace.
Exactement. Donc nous avons toute une équipe qui a travaillé pendant plusieurs mois. La préparation de l'exercice a commencé donc au mois de juin l'année dernière pour construire tout d'abord un scénario crédible au niveau spatial. Donc des experts de tous les domaines, du domaine du GPS, des communications satellitaires, vont travailler ensemble pour élaborer ce qu'on va appeler des vignettes. Les vignettes, ce sont des événements spatiaux qui vont se dérouler durant l'exercice. Donc là, sur l'exercice 2024, on a joué 24 événements spatiaux qui allaient de la manœuvre au brouillage ou au lancement de satellites depuis le sol pendant l'exercice.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un scénario qui a fonctionné, puis un autre qui a pu peut-être surprendre aussi les participants, les joueurs?
Alors, il y en a un. Donc, on est sur un bateau de la Marine nationale. Donc, tout est fictif dans cet exercice. Donc, on a une remontée fictive d'un bateau qui reçoit du brouillage sur ses communications satellitaires. Donc, il a une perte de capacité. Il va rendre compte au niveau du commandement de l'espace. Ensuite, on va procéder à une localisation du brouilleur. Donc, le brouilleur est localisé finement au niveau derrière les lignes ennemies, et ensuite il y a une opération fictive elle aussi qui va être montée pour aller détruire ce brouilleur afin de récupérer toute l'autonomie d'utilisation de nos communications satellitaires.
Le brouilleur, il est dans l'espace ou il est sur un territoire ennemi, donc sur le territoire?
Alors on peut avoir les deux. On peut avoir des brouilleurs qui vont être dans l'espace, on peut avoir des brouilleurs qui peuvent venir du sol. Donc après, c'est aussi le rôle des experts de pouvoir déterminer ça.
Et donc, un brouilleur se détruit.
Un brouilleur peut se détruire,
effectivement. Peut se détruire, d'accord. Alors, l'exercice de l'année dernière s'intégrait dans Orion 23, exercice interarmé qui visait à s'entraîner au combat à grande échelle. Quelle différence, commandant Benoît, avec l'exercice de cette année?
Alors, la volonté du CDE, c'est vraiment d'adosser l'exercice Astérix à des événements particuliers. Donc, 2021, la première édition, donc un exercice d'une telle ampleur en Europe n'avait jamais été vu. La France est vraiment leader en ce domaine. L'année suivante, c'était adossé donc à la présidence française de l'Union européenne. En 2023, comme vous l'avez dit, Orion, l'exercice multimilieu et multichamp. Et cette année, le mot d'ordre était l'intégration. Donc une vraie ouverture à l'international. On avait 15 pays qui étaient présents, avec près de 30 joueurs qui étaient donc insérés dans notre structure de commandement. Ça aussi, c'était une grande première, un vrai challenge, que ce soit pour les militaires français ou les militaires étrangers qui étaient avec nous, puisqu'on s'est retrouvé à avoir des militaires étrangers pleinement intégrés dans notre structure de commandement. Donc vous pouviez être amené à avoir des briefings qui étaient conduits par un Anglais ou un Français, et ils avaient le même rôle, ils avaient la même légitimité à leur poste. Donc ça a engendré beaucoup de travail en amont, notamment pour tous les joueurs français, puisque l'ensemble de l'exercice s'est déroulé en langue anglaise, que ce soit à travers les briefings, à travers les documents écrits. Donc c'était un vrai challenge. Et
une remise à niveau, alors.
Exactement.
Vous parlez de pays, de troupes anglaises. Quel type de pays ont participé?
Alors il y a différents niveaux d'intégration. Tout d'abord, les pays qui font partie Combined Space Operations. Donc là, nous avons des partenariats très étroits avec les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, le Japon, l'Italie ainsi que la Norvège. Donc ces pays-là étaient vraiment insérés pleinement dans notre structure de commandement. Et nous avons aussi des partenaires européens qui veulent se développer dans le milieu spatial militaire. Donc à ce titre, ils étaient invités. Eux étaient présents en doublon et ils pouvaient voir du coup comment travaillaient les militaires français sur l'exercice.
Donc ils avaient plus un rôle d'observateur?
Alors ils étaient vraiment en doublon, donc eux étaient présents pendant toute une semaine, puisque nous avons aussi offert à des pays autres la possibilité de venir en tant qu'observateur. Donc eux venaient passer une journée et ils avaient des présentations faites par du personnel du CDE où on leur présentait quels sont les innovations auxquelles le CDE participe, quelles sont les ambitions du CDE et comment est-ce qu'il s'organise. Et c'est vrai qu'il y avait ces trois niveaux d'intégration pour nos partenaires étrangers.
D'accord. Quel est le rôle de la composante spatiale dans un tel exercice?
Alors, l'exercice Astérix, c'est vraiment focalisé sur le spatial. Donc, il s'appuie sur un scénario, là on a repris le scénario d'Orion, donc un scénario qui est crédible, qui est complexe, qui va présenter les milieux maritimes, aériens et terrestres. Donc on va s'appuyer sur ce scénario pour nous créer après des événements au niveau de l'espace.
Mmh. Vous pouvez nous rappeler quel était ce scénario?
Alors là, on avait donc le pays rouge, donc le pays ennemi qui était Mercure, qui avait... dépasser un peu ses frontières, qui soutenait donc des actions en territoire bleu, en territoire ami, et Astérix venait soutenir le pays bleu pour se défendre de cette intervention rouge, on va dire, dans le territoire.
Mmh. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que vous avez eu des surprises dans le déroulement de cet exercice Astérix?
Alors, nous avions pour la première fois les Américains qui sont venus pour jouer une force rouge, donc une force ennemie, crédible et surtout réelle, puisqu'elle était occupée par des personnels donc militaires américains, dont c'est le métier en fait, de créer cette force rouge pour avoir un scénario non déterministe, donc qui va avoir des événements qui peuvent changer selon la volonté des joueurs. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, puisque ça nous a permis de nous confronter à quelqu'un qui réfléchit, et non pas à un ordinateur ou à une intelligence artificielle. Donc ça a engendré forcément quelques surprises, puisqu'on va faire un peu de bluff, on va voir un peu quelles sont les réactions des rouges pour les jauger, pour essayer d'évaluer quelles sont leurs capacités, et pour nous ensuite mettre en place peut-être des tactiques particulières pour pouvoir gagner ce rapport de force dans l'espace, puisqu'il faut reprendre le dessus pour redevenir autonome dans l'utilisation de tous les services spatiaux qui sont liés aux opérations militaires.
Mmh. Vous parlez, commandant Benoît, de ce scénario des rouges. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, ou est-ce que c'est confidentiel sur l'histoire qui s'est déroulée?
Alors après, les différents événements étaient de l'ordre, donc comme tout à l'heure je vous ai donné un exemple avec le brouillage, on peut avoir des manœuvres entre différents satellites, on peut avoir des lancements qui vont en venir du sol pour détruire un satellite, il va y avoir toutes ces missions, on peut avoir un éblouissement de nos satellites qui font de l'observation, donc tout ça s'est pris en compte, et les rouges là étaient vraiment présents pour nous aider à monter en compétence dans le domaine de la guerre spatiale. La guerre spatiale, c'est vraiment donc des satellites qui sont dans l'espace pour faire des actions dans l'espace.
D'accord. Dans le contexte géopolitique actuel, quel premier bilan pouvez-vous établir de cet exercice Astérix, et qu'est-ce que vous pensez important d'améliorer?
Alors le premier enseignement, c'est bien évidemment que la maîtrise de l'espace est nécessaire ouais. pour avoir cette souveraineté, mais pas que dans l'espace. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'espace fait partie de toutes les opérations militaires. Vous avez besoin du GPS, vous avez besoin de la communication par satellite pour conduire des opérations en mer, sur terre ou dans les airs. Vous avez besoin de satellites d'observation pour préparer une mission. Vous allez devoir faire de la reconnaissance. Donc aujourd'hui, l'espace est vraiment partie prenante des opérations. C'est un milieu à part entière.
On ne peut pas faire sans.
Exactement. Mmh. Donc il faut assurer la souveraineté dans l'espace et la liberté d'action dans l'espace pour être sûr qu'on aura la capacité de conduire et de planifier nos opérations dans les autres milieux. Et l'autre enseignement, c'est bien évidemment l'interopérabilité. L'interopérabilité qui est aujourd'hui nécessaire, et on l'a vu, la volonté de s'ouvrir à nos partenaires internationaux montre ce besoin pour partager les informations. Aujourd'hui, l'espace, c'est beaucoup de surveillance. On va surveiller qu'est-ce qui se passe dans l'espace avec des satellites qui vont manœuvrer, avec des lancements, avec tous ces événements qu'on doit être capable de suivre, qu'on doit être capable de caractériser, savoir s'ils peuvent être menaçants ou pas. Et le partage de l'information se fait bien évidemment à travers les relations qu'on peut d'abord tisser dans des exercices comme ça.
Vous parlez de souveraineté, commandant Benoît. Est-ce que cette souveraineté, elle est au niveau supranational? Est-ce qu'elle est au niveau européen? Est-ce qu'elle est au niveau, par exemple, de l'OTAN? Quelle est la structure qui garantit cette souveraineté?
Alors, il y a différents niveaux, hein. Le premier va rester le niveau national, bien évidemment, cette capacité à être autonome dans la surveillance, dans la prise de décision. Et ensuite, le partage d'informations va permettre d'affiner nos connaissances, d'affiner cette situation spatiale. Aujourd'hui, on s'inscrit pleinement dans une montée en puissance du CDE. L'objectif, c'est bien évidemment le CDE en 2025 sur Toulouse, hein, avec un bâtiment dédié qui va regrouper le commandement de l'espace ainsi que le centre excellence de l'OTAN dédié à l'espace qui s'est installé sur Toulouse il y a maintenant un an et demi. Donc tous ces différents niveaux permettent après d'échanger et de gagner en autonomie dans ce domaine spatial.
Mmh. Quand on voit l'évolution du conflit en Ukraine, est-ce qu'il y a une menace, par exemple, au niveau spatial à cause de ça ?
Alors, c'est une question à laquelle moi je ne répondrai pas aujourd'hui, mmh, puisque évidemment on se concentre sur l'exercice Astérix.
D'accord. Alors, un dernier point sur cet exercice Astérix, ce sont ces industriels qui ont participé. Quel a été leur rôle ?
Eh bien, la particularité d'Astérix, c'est que l'environnement est complètement simulé. À l'inverse d'un exercice aérien ou terrestre, où on va engager des avions qui vont être les gentils et d'autres qui vont être les méchants, nous, dans l'espace, on ne peut pas se permettre d'envoyer un satellite juste pour un exercice. Donc, on va simuler un événement. L'exercice de cette année, c'était 4000 objets spatiaux simulés. Et ça, on ne peut pas le faire de manière autonome. On est obligé de compter sur nos partenaires étatiques ou industriels, le CNES en premier lieu. Ensuite, on va retrouver des services spatiaux qui vont aussi participer, comme le service Helix d'Ariane Group ou le service de Safran qui permet de la localisation avec des radiofréquences des satellites. Donc ça, aujourd'hui, c'est une nécessité avec différents jalons tout au long de la programmation et de la planification de l'exercice pour être sûr que l'environnement est fiable, qu'il est réaliste, et on va pouvoir y intégrer ensuite, une fois qu'on a ces 4000 objets qui sont simulés, on va pouvoir venir intégrer les différents événements qu'on veut jouer au niveau de la simulation de l'exercice.
Mmh. 4000 objets spatiaux, ça peut être quoi comme objet ?
Alors vous avez de tout. Vous avez évidemment des satellites en tant que tels qui vont avoir différents rôles, hein, des satellites qui vont faire de la communication, de la photo ou du GPS, et puis vous avez aussi tout ce qui sert à mettre les satellites dans l'espace. Aujourd'hui, l'espace, il y a énormément de débris, on parle de plusieurs centaines de millions de débris, puisque pour envoyer un satellite dans l'espace, vous avez des morceaux de fusée qui vont être dans l'espace, qui vont retomber plus ou moins tard sur Terre. Mais ça, c'est une réalité, donc on simule aussi tout ça.
Et c'est un danger justement pour les satellites.
Effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a une vraie importance de connaître la situation spatiale et de savoir qu'est-ce qu'il y a là-haut. On travaille en étroite collaboration avec le CNES sur l'anti-collision, pour être sûr que nos satellites ne vont pas être heurtés par soit un autre satellite, soit un débris qui serait dans l'espace. Et toute cette surveillance est faite donc en lien étroit avec le CNES, par le commandement de l'espace.
Oui. Vous disiez que c'était donc c'était un scénario, c'était comme, en fait, on pourrait imaginer un immense jeu vidéo, puisque vous dites que les participants sont des joueurs, tout est simulé, et donc il n'y a pas de vol d'avions de l'armée de l'air, il n'y a pas de lancement de fusées dans l'espace. Qu'est-ce que ça permet de faire tout en version simulée ?
Alors bien, c'est vrai qu'on peut apparenter ça à un jeu vidéo. Nous, on appelle nos militaires des joueurs durant l'exercice. Donc la particularité, c'est que cette année, à l'inverse de l'année dernière, on était effectivement tout seul pour jouer. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le commandement de l'espace qui s'appuyait sur des experts des différents domaines pour avoir le scénario réaliste. Et quand on voulait, dans le scénario, conduire par exemple une opération en partenariat avec l'armée de terre ou la marine, on pouvait le jouer et le simuler. L'année dernière, dans l'exercice Orion, on avait la chance en fait d'avoir les militaires des autres composantes qui étaient présents. Et à ce titre, on pouvait organiser, et c'est notamment ce qui a été le cas l'année dernière sur une opération aérienne, alors qui a été jouée pendant l'exercice, qui avait pour but de détruire un centre de contrôle spatial de l'ennemi. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque sur les scénarios, on va dire, multimilieu avec les autres composantes, donc avec l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, on peut élaborer des scénarios très très complets, et même si l'environnement spatial reste simulé, vous pouvez avoir des vraies actions et des vraies opérations qui vont être inscrites dans l'exercice en lui-même.
Oui, donc une plus grande marge de manœuvre, en tout cas une plus grande diversité des opérations.
Exactement.
Ouais. Merci beaucoup, commandant Benoît, d'être venu nous présenter cet exercice Astérix 2024. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, puisqu'il y en aura certainement un autre.
Effectivement, on se donne rendez-vous l'année prochaine, avec plaisir.